RTS La Première présente Mystifica Science, un podcast de CQFD qui s'intéresse aux grandes impostures scientifiques, avec l'agente Leslie et Adrien Zerbini.
C'est une histoire qui pourrait faire rire, l'histoire des avions renifleurs. Avec un radar très particulier, on pourrait, depuis le ciel, localiser les nappes de pétrole. Une affaire dans laquelle les services secrets français vont également jouer un rôle prépondérant. Elle pourrait faire rire, je le disais, si elle n'avait pas coûté au minimum 240 millions d'euros aux contribuables français. Mais comme le dit l'agente Leslie, cette mystification est arrivée à point nommé.
Il faut se rappeler la crise pétrolière qui a eu lieu au début des années 70. La France est dans une situation alarmante, car toute son économie s'appuie sur l'or noir. Et en 1974, le gouvernement français, dirigé par le jeune Valéry Giscard d'Estaing, lance même une campagne de publicité destinée à rassurer la population. Vous rappelez peut-être de son slogan. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées.
Des idées assez extravagantes parfois, comme celle donc de ces fameux avions renifleurs.
Oui. En 1976, c'est la crise chez Elf Aquitaine, compagnie pétrolière qui à l'époque est une entreprise publique. Elle vient de perdre ses gisements algériens et irakiens. Il faut absolument trouver de nouveaux filons. L'enjeu est national. Et c'est là que Elf est approché par un agent de renseignement, Jean Violet.
Un agent du renseignement, vous voulez dire un espion?
Si vous voulez. Officiellement, il est avocat. Il a longtemps milité dans des factions d'extrême droite et a des liens avec le milieu catholique traditionnaliste. Il a aussi travaillé pour le SDECE, les services secrets de l'époque, notamment dans les opérations de déstabilisation dans les pays satellites de l'Union soviétique. Enfin, il a un réseau de relations important, qui va du président du Conseil des ministres de l'époque à un des patrons de UBS.
Donc ce Jean Violet est un espion influent.
Influent et surtout assez crédible. Donc, je vous le disais, il approche en toute discrétion, bien entendu, la société Elf pour parler d'un système de détection aérienne des gisements du pétrole. Un système qui permettrait à Elf de réduire considérablement ses frais de prospection et qui surtout donnerait à la France un avantage considérable sur les sociétés pétrolières des autres pays.
Alors évidemment, dit comme ça, c'est tentant, mais cet espion-là, ce Jean Violet, est-ce qu'il prétend avoir lui-même inventé ce radar magique-là?
Non. En réalité, Jean Violet n'est là, dit-il, que pour accompagner les démarches des deux inventeurs alors totalement inconnus, Alain de Villegas et Aldo Bonassoli. Ces deux imposteurs-là sont vraiment assez attachants. Si vous le voulez bien, je vais rapidement vous les présenter.
Voilà, je vous en prie, allons-y.
Thank you. D'abord, Aldo Bonassoli. C'est un Italien du Nord. Il a fait l'école d'électronique de Bergame. Il est donc technicien en électronique.
Technicien en électronique, donc à la base plutôt un réparateur de télévision qu'un ingénieur.
C'est vrai. Mais parmi ses professeurs à Bergame, il avait une authentique allumée. L'inventeur de la psychobiophysique, une sorte de théorie qui relie tout, notamment la physique et la psychologie. Le jeune Aldo est fasciné par ce professeur. Et même si la réparation des télévisions lui sera très utile dans la mystification des avions renifleurs, il est frustré de n'être qu'un technicien.
Ok, ça c'est pour Aldo Bonassoli et son collaborateur, donc c'est Alain de quelque chose.
Alain de Villegas, okay. Le comte de Villegas. Lui, c'est un aristocrate belge. Il pense que la science est trop raide. Et il est ainsi fasciné par le même professeur allumé que Aldo. C'est d'ailleurs ce professeur qui les présente l'un à l'autre. Alan veut concevoir un désalinisateur pour vaincre la sécheresse en Afrique et Aldo sait comment mettre au point un tel appareil. C'est le premier projet qu'ils vont mener ensemble, associé à un ami d'Alan, un homme d'affaires.
donc un désalinisateur. Et alors, leur projet fonctionne ?
Disons qu'ils construisent un démonstrateur qui fonctionne extrêmement bien, à condition de disposer d'eau de mer, d'eau douce et de grosses quantités de sel, si vous voyez ce que je veux dire. Bref, le démonstrateur est un faux et l'homme d'affaires arrête les frais. Sa société est dissoute.
Et du coup, les mystificateurs sont démasqués.
Oui, mais l'homme d'affaires et ami du comte de Villegas, je l'ai dit, ne tenait sans doute pas à se vanter d'avoir été dupé. Donc, il n'en parle pas. Et d'ailleurs, nos deux inventeurs ne vont pas se décourager et ils mettent au point un procédé de détection de nappes phréatiques. Là, ils vont lever beaucoup d'argent grâce à un troisième homme qu'ils ont rencontré en 1969, Jean Violet.
Jean Violet, donc l'espion avocat dont vous nous parliez il y a quelques minutes.
Voilà. Violet a donc beaucoup de relations, notamment un cimentier avec des problèmes d'approvisionnement en eau. Bref, l'argent coule à flot pour expérimenter leur nouveau détecteur. Et même si le radar ne fonctionne pas vraiment, les affaires, elles, roulent bien.
Bon, mais alors, il y a bien quelqu'un qui a dû s'apercevoir à un moment qu'il ne s'agissait que d'une mystification, non ?
Vous savez, l'avantage avec l'eau, c'est qu'il y en a un peu partout. Il suffit de creuser assez profondément. Alors que le dispositif faisait bip-bip, on creusait et on trouvait. Et si on ne trouve pas, Aldo expliquait que l'eau était dans une nappe plus profonde. Ce qui est certain, c'est qu'ils n'ont jamais trouvé les quantités d'eau espérées. Mais ça, on pouvait toujours dire que c'était une question de réglage.
Bon, alors, soit de l'eau, il y en a un peu partout, mais ça n'est pas le cas du pétrole.
Et en 1973, Villegas, notre comte belge, a l'idée du siècle. Un appareil embarqué dans un avion pour détecter des gisements de pétrole. Jean Violet est immédiatement convaincu et il approche Elf Aquitaine.
Bon, alors juste une minute là, parce que est-ce que Jean Violet est convaincu qu'il va permettre à la France de découvrir du pétrole ou est-ce qu'il est convaincu qu'il peut gagner beaucoup d'argent?
Vous voulez savoir si Violet savait déjà à ce moment-là qu'il ne s'agissait que d'une mystification. Ça, c'est un mystère. Ce que je peux vous dire, c'est que Violet s'est beaucoup enrichi dans cette affaire. Beaucoup plus que ces deux pseudo-inventeurs.
Bon, alors continuons. Donc, Elf Aquitaine mort à l'hameçon, ils vont financer les recherches nécessaires à la mise au point de ces avions renifleurs.
Oui, mais le président d'Elf est méfiant quand même. Il veut une démonstration. Il demande donc un test au-dessus d'une région qu'il connaît bien, l'Aquitaine. Rappelons que la société s'appelle alors Elf Aquitaine. Un instrument est embarqué dans un avion qui va survoler 4 petits gisements de pétrole et de gaz. Durant ce vol d'essai, l'instrument détecte en effet ces gisements qui apparaissent clairement à l'écran. À bord, c'est l'euphorie. Avec une technologie pareille, la France va bientôt être au premier rang mondial des producteurs de pétrole.
Bon, alors juste une question, ces 4 gisements, entre guillemets, détectés par le radar de nos inventeurs, est-ce que leur localisation était connue du grand public ?
Non, absolument pas. Ces localisations étaient connues seulement des dirigeants de Elf et des services secrets.
Et Violet, lui, était proche des services secrets. Donc, continuez.
Là, Violet va jouer un coup de maître. Il va faire comprendre à Elf que les Américains et les Émirats sont également intéressés par son invention. Un premier contrat va donc être signé à la va-vite au siège de l'UBS à Genève. Cette menace a fonctionné au-delà de tous les espoirs de Violet. Elf s'engage notamment à n'être qu'un utilisateur de ses détecteurs. Pas de transfert de technologie, donc a priori, Elf n'a pas à savoir comment fonctionnent ces avions renifleurs. Et pourtant, ils vont verser l'équivalent de 235 millions d'euros pour leur développement.
Bon, mais à un moment, on va tout de même se rendre compte que ça ne marche pas, non ?
Pas si vite, vous êtes toujours pressé. Hein. Finalement, une véritable campagne de recherche va être lancée sur le littoral breton. Les géologues considèrent cette zone comme chaude, c'est-à-dire ils pensent qu'elle est potentiellement riche en pétrole. Les zones indiquées par l'avion renifleur vont étonner les géologues. Elles ne correspondent à rien de prometteur.
Mais alors là, vous m'étonnez grandement.
Oui. Mais l'équipe des inventeurs explique qu'il faut encore faire quelques réglages. Et puis, surprise! Au large de Brest, l'avion a reniflé quelque chose d'inattendu. Un petit point très riche en uranium. Une seule explication possible. C'est un sous-marin nucléaire. D'ailleurs, l'armée le confirme. Un sous-marin nucléaire est bel et bien en opération au large de Brest. Oh, l'avion renifleur passe du secret industriel au secret militaire. La France pourrait ainsi détecter les sous-marins russes, par définition indétectables. Désormais, toutes les opérations des avions renifleurs vont être estampillées « secret défense ».
Mais toujours, j'insiste, hein, toujours pas le moindre gisement de pétrole découvert.
Non. Et en 1978, de nouvelles campagnes de détection ont lieu en Afrique du Sud. Là, l'avion renifleur indique une zone où les géologues ne trouvent que du basalte. Et ça, c'est mauvais. Tous les géologues savent que les zones basaltiques ne sont pas pétrolifères. Néanmoins, sous la pression du directeur d'ELF et des inventeurs, bien sûr, les équipes vont forer le basalte jusqu'à 5000 mètres. C'est énorme. Là, le forage se coince. L'équipe abandonne alors que Aldo insiste. Le pétrole est à 6200 mètres. Mais on plie bagage.
Oui, on plie bagage et peut-être qu'on commence à se douter qu'il y a une embrouille, non ?
Non, pas encore, mais vraiment pas encore. Un des géologues de ELF dira que le développement technologique n'est pas encore à la hauteur de la révolution scientifique d'Aldo. Ce qui illustre bien l'état d'esprit à l'époque. Mmh. Et puis, il faut éviter que d'autres pays mettent la main sur cette technologie. Bref, on se force à ne pas la remettre en question. Cela étant, ELF réclame désormais un transfert technologique. Elle veut être propriétaire de cette invention. Elle va, d'ailleurs, signer un nouveau contrat de l'équivalent de 295 millions d'euros pour s'assurer cet achat.
Ah, donc c'est vraiment la fuite en avant et on continue donc d'y croire et de payer.
Oui. Mais les ingénieurs de chez ELF vont aller s'installer dans l'entre guillemets laboratoire de recherche de Aldo et Alain et ils vont comprendre assez rapidement que ce bric-à-brac n'a aucune raison de fonctionner. Finalement, un ingénieur de ELF étudie longuement les photos aériennes prises par l'avion renifleur et il remarque une tache suspecte. Et l'analysant bien, il en déduit qu'il s'agit d'un liseré de peinture, c'est-à-dire une tache faite par la peinture lorsqu'elle sèche. Il appelle la direction de ELF pour annoncer sa découverte. Les images aériennes sont en réalité des peintures, des falsifications.
J'imagine que chez ELF, on n'a pas dû être très content.
Ah, très fâché même. Mais contre cet ingénieur suspicieux, vous allez nous dire que tout ce projet est une imposture? Ben, voyons, c'est que vous travaillez par hasard pour les services secrets d'un pays étranger. Un pays qui aimerait bien avoir les avions renifleurs.
Ok, donc personne n'y croit, c'est vraiment incroyable.
Je vous l'ai déjà dit, il est facile de faire croire l'impossible à celui qui veut y croire. Et là, tout le monde voulait croire à ces avions renifleurs. N'empêche que l'ingénieur suspicieux a tout de même fait part de sa découverte à d'autres personnalités. Et les ministres de l'industrie de l'époque est beaucoup moins crédule. Il exige que tout le matériel de recherche soit amené dans une maison louée pour l'occasion. Une maison où d'éventuels mystificateurs n'ont pas pu installer quoi que ce soit. Fin mai 1979, une expérience a lieu dans le plus grand secret, avec d'un côté nos inventeurs farfelus et de l'autre un vrai physicien, Jules Horowitz, qui va tendre un piège à nos inventeurs. Il va faire en sorte que Aldo voit qu'il dépose une enveloppe avec une règle à l'intérieur dans la pièce à côté de celle où se trouve le détecteur. Ensuite, on demande à Aldo ce qu'il y a dans la pièce d'à côté. Il manipule son appareil pendant quelques instants et une règle apparaît à l'écran, bien droite. Jules Horowitz demande à son assistant d'aller chercher l'enveloppe et de l'ouvrir. Il a bien une règle à l'intérieur, mais elle est cassée. L'imposture est démasquée.
Alors, ça n'explique tout de même pas comment fonctionnait son radar dans les avions renifleurs.
Eh bien, c'était des cartes que Aldo avait peintes en avance qui défilaient tranquillement sur l'écran de télévision. En fait, la carte était filmée avant le décollage, stockée sur une bande magnétique, un peu comme une vidéo VHS, si vous vous souvenez.
Oui, on se souvient de ça.
Et la vitesse de défilement était adaptée au survol de l'avion. Un système assez simple à mettre au point, surtout quand on vous donne des millions pour le faire.
Et les premiers gisements détectés, on se rappelle, c'était en Aquitaine, là, avec ce fameux sous-marin. Comment est-ce qu'ils ont fait ça?
Ah oui, des informations que détenaient des services secrets et auxquels Jean Violet devait avoir accès.
Bon, alors, ce qui reste incroyable, c'est la naïveté de Elf dans cette affaire. N'importe quel bon physicien sait qu'il est impossible avec des ondes radar de détecter du pétrole sous des kilomètres de roches ou d'eau.
D'une part, beaucoup de monde avait intérêt à croire à cette fable. Et d'autre part, sachez que, depuis 2010, Shell fait des expériences aériennes pour détecter du pétrole. Il semble que certains hydrocarbures très légers, comme le méthane, échappent à leur prison minérale, leur gisement, pour stagner à très faible concentration dans l'atmosphère. Donc, c'est une affaire à suivre.
Cet épisode de Mystifica Science a été réalisé par Yves Roulin. Éditeur numérique, Sébastien Blanc. Attaché de production, Annette Kléber. Mystifica Science est un podcast de la RTS. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager sur les réseaux sociaux. Et ne manquez pas notre prochain épisode qui sera mis en ligne lundi prochain.